l'État a dit, donc Notre-Dame de Pentecôte a organisé 4 conférences. Donc le thème des 4 conférences, c'est l'environnement, la finance et l'homme. Et vous me direz, bah, c'est quoi ce truc dans une église? Eh bien, bah, c'est ce qu'on va voir. Donc, la première conférence qui sera donnée par Ariel et Myriam. Donc Ariel, tu es économiste, tu travailles à la Société Générale et tu es responsable du risque pays. Donc peut-être que tu vas nous expliquer ce que c'est que ce truc, le risque pays. Donc la première conférence s'appelle « Comprendre l'économie et la finance ». Et donc Ariel, en plus d'être économiste, tu as été professeur, tu es toujours professeur de finance. Tu as été professeur de finance. Et tu as quelque chose qui est super sympa, c'est que tu as la même nationalité que notre pape. Alors ça fait de toi quelqu'un de très spécial. Donc la deuxième conférence, jeudi prochain, s'appelle « Quelle civilisation du travail voulons-nous ?» La troisième s'appelle « Éthique, finance, bilan et perspective ». La dernière conférence, « Environnement, l'enfant délaissé de notre civilisation ». Alors il nous a paru important, avant d'essayer de comprendre dans quelle civilisation nous sommes, comment notre travail s'est transformé, pourquoi l'environnement est délaissé, alors il nous a paru important de commencer par les fondamentaux. Pourquoi l'économie et la finance est si importante aujourd'hui? Quelles ont été les différentes évolutions de nos sociétés, de notre civilisation, qui nous ont amenés à une civilisation où on parle de marché financier, on ne sait pas trop ce que c'est. On dit que l'économie est très importante, qu'il y a des forces économiques qui contrôlent beaucoup de choses. Et donc, il nous a paru important de vous présenter, de vous expliquer ça avec un professionnel qui en plus est très pédagogue, qui, avec des mots simples, mais très clairs, va nous expliquer ce que c'est que ce truc de la finance de l'école. Merci beaucoup, Ariel, d'être là. Et donc, sur vos chaises, il y a 2 feuilles. Donc, après cette conférence, vous serez, pour les personnes qui souhaitent continuer à dialoguer avec Ariel, si vous voulez être invité à 2 séances supplémentaires d'approfondissement des sujets sur lesquels Ariel va parler, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées. Et donc, les données, peut-être, vous savez peut-être, mais il y a une petite équipe de financiers à notre département qui sont là, qui pourraient peut-être recueillir vos feuilles. Et s'ils sont là, est-ce que vous pourrez vous lever? Voilà les gens du groupe finance de notre contrôle. Voilà d'autres financiers qui pourront, si vous les avez repérés, recueillir les feuilles si vous voulez continuer à avoir une suite à cette conférence. Ça sert sous forme d'un déjeuner. Et donc, si ça vous intéresse à la fin de la conférence, si ça vous a plu, inscrivez-vous et vous aurez aussi le résumé de la conférence. Et maintenant, Ariel, à toi de jouer.
Merci. Merci beaucoup, Rogelio. Je voulais donc tout d'abord remercier avant tout Rogelio de m'avoir proposé de faire cette conférence. On a souvent discuté de sujets divers et variés sur les crises d'Amérique latine ou autres. Et donc je voulais te remercier de m'avoir proposé ce défi pour moi, hein, parce que je voudrais dire bon ami à la fac, hein, donc à Nanterre, et j'ai fait un troisième cycle à la Sorbonne, et j'ai très rapidement commencé à travailler, en fait, hein, commencé à travailler comme gérant de fonds au début, hein, donc à la fin des années 90. Très rapidement, je suis venu à l'économie en banque. Donc je suis un économiste de banque, je ne suis pas un économiste académique. Hein, donc je dirais ça, l'économiste de banque ou l'économiste d'entreprise et ou professeur d'économie ou chercheur en économie, ce que le médecin est au prof de médecine ou au chercheur, en fait on est des praticiens. Et donc mon approche ici, ben, je vais essayer de vous illustrer un peu l'évolution de la pensée économique justement avec les ruptures qu'a évoqué Rogelio. Diverses et variées au cours de l'histoire, et comment est-ce que la pensée économique a évolué avec ces ruptures, donc dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je vais, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de la notion de monnaie et la notion de valeur, en fait, de valeur de marchandises, de valeur des prix des actifs financiers. Hein. Donc ça va être donc une présentation en deux temps et que j'espère sera assez claire. Donc je vais, si vous me permettez, je vais m'asseoir pour avoir mes notes devant moi, si vous le permettez. Et donc voilà, donc merci encore une fois à Rogelio et merci donc aux organisateurs de ces conférences de m'accueillir. J'espère que vous ne le regretterez pas. Je voudrais donc commencer par... je vais vous proposer de faire un voyage avec moi. Un voyage long, mais de courte durée. Illustrer avec vous l'évolution de la pensée économique et qui remonte essentiellement à la plus haute antiquité. Hein. Depuis la plus haute antiquité, il y a des questions qui se posent sur l'économie, sur différents facteurs liés à l'économie, comme l'échange, les prix, les prêts. Si je résume tout au long de l'histoire, pour moi, il y a quatre grands pas, quatre grands jalons qui ont défini la pensée économique et qui nous amènent un peu au débat d'aujourd'hui. Hein. Et puis tout au long de cette histoire-là, les débats, ils ont été à peu près toujours les mêmes. Le protectionnisme contre le libre-échange, la répartition des richesses, hein, la justice sociale, les inégalités, la place de la monnaie, hein, et la valeur. Hein, donc un point commun à toutes les époques. Et ces éléments-là, ils ont interagi entre eux pendant des siècles, hein, pour aboutir aux débats qui sont aujourd'hui les mêmes, qui étaient ceux des époques, même des époques reculées. Dans l'Antiquité, on a une réflexion sur l'économie. Donc, j'ai dit quatre grands jalons. Le premier, donc la cloche nous l'indique, c'est le jalon de la pensée qui est une pensée plutôt microéconomique dans l'Antiquité. On se pose des questions sur la nature de l'échange entre un acheteur et un vendeur. Les notions d'égalité entre vendeur et acheteur. On se pose des questions du juste prix. Hein, donc là, même depuis les pré-socratiques ou même chez Aristote, hein, on se pose ces questions-là. Aristote, hein, un ouvrage d'Aristote, qui est l'un des premiers ouvrages dans lesquels on parle d'économie. L'économie, au sens des Grecs, étant les affaires domestiques, hein, donc c'est la gestion affaires domestiques, au sens... On a les premières réflexions sur l'échange, hein, chez Aristote déjà, donc entre acheteur-vendeur. La notion de juste prix qui a été... Après, ce sont des notions qui ont été prolongées plus tard par saint Thomas d'Aquin et par les penseurs chrétiens d'Occident. Et la notion aussi de monnaie et de prêt. Hein, et donc la notion de prêt à intérêt qui était bannie depuis la plus haute antiquité. Hein. Donc, ce n'est pas une notion qui est née avec le christianisme, ce n'est pas une notion purement judéo-chrétienne qui s'est prolongée avec l'islam, mais c'est une notion qui nous vient de l'antiquité. Hein. Donc ça, c'est la première étape, je dirais, hein, de la réflexion économique. Donc on est dans l'antiquité, donc ça jalonne des milliers d'années. Hein, donc, c'est des réflexions qui ont eu lieu dans les sociétés où l'échange marchand s'est développé. Hein. Donc c'est très rapidement, hein. Je vais faire un flash de plusieurs milliers d'années, en trois phrases, mais on a eu la sédentarisation des sociétés. Après la sédentarisation, ça a impliqué une hiérarchisation des sociétés. Donc là, il y a des anthropologues qui parlent de justement les sociétés. La hiérarchisation des sociétés. Dans la hiérarchisation des sociétés, on a aussi progressivement une division du travail qui se met en place avec le développement des sociétés, le développement des villes, hein, une division du travail qui amène à une spécialisation par artisanat, qui amène à des échanges. Et au cours de ces échanges-là, justement, la monnaie commence à jouer un rôle. Hein, et donc, c'est à partir de ces moments-là qu'on se pose des questions sur la justice des échanges, sur les prix, hein, etc. Donc c'est une histoire qui est très longue, c'est plusieurs milliers d'années, hein, que je viens de balayer en une minute. Mais ensuite, donc ça c'est l'histoire très longue, stable, hein, entre guillemets, hein, avec la profondeur. Après l'époque, pour moi, des transformations, un premier pas dans les transformations, c'est le 15e siècle, hein, avec les progrès de la navigation, hein, la découverte de l'Amérique, hein, disons, le développement de ce qu'on appelle le commerce au long cours. Hein, donc là, je vous renvoie à des écrits de Fernand Braudel, qui a écrit, donc il y a un opuscule intéressant, qui est une série de conférences de Braudel sur la dynamique du capitalisme, hein, que je vous conseille de lire pour ceux qui ne l'ont pas fait, où Braudel explique, hein, justement que ce commerce de long cours, hein, donc avec la découverte de l'Amérique, avec les richesses que cela a amené, donc on est dans une période de prospérité en Europe, hein, donc on a une dive d'or en Europe, hein, par les colonies espagnoles, aussi le développement du commerce des épices, hein, qui est la source de richesses immenses. Hein. Et on a aussi, il y a l'aspect le commerce au long cours, donc le développement de ces échanges mondialisés, première chose. Et la deuxième chose, on est dans une période où c'est l'émergence des États au sens presque moderne du terme, c'est-à-dire après l'époque féodale, on a l'émergence des États, hein, avec des volontés de puissance, d'influence. Et ces volontés de puissance et influence passent en partie par la puissance économique, qui à l'époque est pensée en termes de détention de monnaie métallique. Hein. C'est la détention de monnaie métallique, donc c'est toute la logique des mercantilistes à l'époque, hein, qui jouent à plein. Donc c'est premier jalon, c'est la microéconomie, l'antiquité, les échanges, les prix, les prêts. Deuxième jalon, 15e siècle, avec ces transformations. Et donc, on parle justement, on commence à parler des excédents et des déficits commerciaux, avec l'apparition des États et leur besoin de financement, parce que financement, la volonté de puissance et d'influence passe donc par la puissance économique, parce que c'est par la puissance économique qu'on peut se payer des armes. Financement des États importants. Donc c'est les premiers écrits qui apparaissent à l'époque, donc premier écrit un peu d'un traité d'économie politique, c'est Antoine de Montchrestien qui écrit un traité d'économie politique, c'est la première fois qu'on entend parler du terme, hein. Et on commence à parler justement du conseil, c'est le conseil que donne un conseiller au prince, hein, d'accord, donc on parle de soldes commerciaux, on parle de soldes budgétaires, donc c'est le début de l'émergence de la macroéconomie, je dirais. Et deuxièmement, on commence avec toute cette période de prospérité qui arrive, on commence à se poser des questions sur les sources de la richesse. Donc on se pose des questions sur les sources de la croissance. D'accord. C'est l'époque de l'émergence du mercantilisme. Le mercantilisme, c'était quoi? On conseillait aux États d'accumuler des excédents commerciaux. Hein, parce que par les excédents commerciaux, ils accumulaient de la monnaie métallique avec laquelle ils pouvaient financer des projets divers et variés ou belliqueux. Deuxième temps, c'est les physiocrates, hein, donc c'est l'école française de pensée, ce sont les physiocrates. Physiocrate, ça vient c'est la loi de la nature, hein, c'est le gouvernement de la nature, ça veut dire. Donc c'est les physiocrates croyaient que les lois naturelles régissaient la source de la richesse. La source de la richesse est dans la terre. Hein, et donc la fille de proue des physiocrates, hein, était François Quesnay, Q-U-S-N-A-Y, hein, et qui était la figure de proue. Hein, de ce groupe, qui se faisait déjà à l'époque appeler le groupe des économistes, hein, et qui se réunissait tous les mardis soirs pour parler des différents sujets. Donc c'est le groupe des économistes de François Quesnay. Donc ce sont les physiocrates. Hein. François Quesnay qui avait été médecin, qui était barbier, donc il tirait le sang, mais il avait été aussi médecin du roi. Hein, et donc c'était un spécialiste de la circulation sanguine et pensait que la santé, aussi bien que la santé de l'être humain devait passer par une bonne circulation sanguine, la santé de l'économie passait par une bonne circulation des biens. Donc ça c'était un peu la pensée profonde des physiocrates. Hein. Donc c'est la réflexion sur l'échange et le libre-échange, hein, le laisser-faire, laisser-passer. D'accord. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît, donc là vous connaîtrez peut-être un peu, peut-être plus, c'est Adam Smith, hein, donc celui qui a en exergue la notion de la main invisible, mais en fait il faut bien savoir que la notion de main invisible apparaît juste une fois dans son ouvrage sur la richesse des nations. Hein. Alors, juste pour la petite anecdote, il a appelé ça traité sur la richesse, sur les causes de la richesse des nations, parce qu'il y avait déjà pas mal d'autres ouvrages qui traitaient de l'économie politique. Donc, un peu pour se démarquer, il a parlé de la richesse des nations. Mais on parle, encore une fois, déjà de la richesse des nations. Donc, on parle de croissance et de macroéconomie. Donc, ça, c'est Adam Smith. C'est Adam Smith qui, le premier, après les physiocrates, qui parle des échanges. Adam Smith parle de la division internationale du travail. C'est-à-dire, il commence à parler des avantages comparatifs. D'accord ? C'est que chaque pays, chaque nation doit se spécialiser dans les biens qu'elle est capable de produire le mieux et qui sont ses propres richesses. Hein. Donc, c'est par l'échange des richesses propres à chaque nation que la richesse globale s'élève. Donc c'est un peu cette première notion d'Adam Smith est très importante. Plus importante, je dirais même, que celle de la main invisible, hein, même si elle a été un peu beaucoup plus colportée par la suite, mais ce n'était pas la notion fondamentale de sa pensée, et même un ouvrage beaucoup plus conséquent qu'il a fait après Adam Smith. Donc il y a sur la source des richesses des nations, et puis un deuxième ouvrage d'Adam Smith, que vous pouvez lire aussi, et qui est assez intéressant, c'est sur donc, le traité des sentiments moraux, où justement, il va un tout petit peu à l'encontre de cette idée que l'égoïsme peut conduire à l'intérêt général. Donc la notion de Smith sur la main invisible, je rappelle, c'est que les intérêts particuliers, hein, donc l'homme par son égoïsme peut contribuer, donc il est égoïste, donc il va bien faire son travail pour gagner de l'argent, et par ce travail bien fait, il va contribuer à l'intérêt général. Donc c'est par l'égoïsme, on contribue à l'intérêt général. Mais dans son traité des sentiments moraux, il dit autre chose. Il dit que la société a besoin d'une cohésion, une certaine forme de cohésion qui passe par, justement, non pas les intérêts particuliers, mais le souci de l'intérêt d'autrui. Hein, donc, il y a une sorte... Et là, c'est une doctrine qui est beaucoup plus développée chez Adam Smith. Hein. Donc, ça, c'est juste pour avoir en tête. Et donc, on arrive à la troisième partie un peu de la pensée économique, de mon point de vue, qui est c'est la partie donc de la révolution industrielle. Donc, on était au 15e siècle, donc on a prospérité, on a le développement d'une caste de marchands richissimes, une caste de bourgeois, et on arrive à la partie révolution industrielle, donc on arrive au choc technologique. Et c'est là où la pensée commence à évoluer. Donc c'est l'apparition des écrits de Ricardo, hein, donc, qui théorise, donc, qui suit la pensée d'Adam Smith. Hein. Donc il découvre les écrits d'Adam Smith 10 ans après la mort de ce dernier, et il décide de devenir économiste, en lisant sur la source des richesses des nations. Alors qu'il n'avait pas fait d'études, hein, Ricardo, je le rappelle. Donc c'est comme ça qu'il apprend l'économie, en lisant Adam Smith, et en lisant d'autres ouvrages, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il apporte de nouveau à Ricardo, à l'époque? Là, on commence à parler des économistes classiques. Hein, donc Adam Smith, comme je le... bien sûr, de cette main invisible, de la division par classe des par revenus, donc la classe des rentiers, la classe des capitalistes, la classe des salariés. Ricardo, il apporte quelque chose de nouveau, il dit qu'il y a des limites à la croissance. Donc Adam Smith, il dit, bon, il y a la croissance, tant qu'il y a des échanges, tant qu'on est dans un monde libéralisé, des échanges justes, la croissance, elle est perpétuelle. Et donc, avec ce troisième jalon, Ricardo, il apporte une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a des limites à la croissance. Il commence à parler des rendements décroissants. C'est l'époque de la Paris. Donc, je rappelle, donc, il y avait Malthus, Ricardo, Marx. Hein, donc, c'est les grands penseurs de l'école classique. Et ces gens-là pensent l'économie en termes de limites, ruptures et des crises, hein, d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire que pour Ricardo, ensuite, entre le progrès technique et la croissance de la population, Ricardo il dit, la population croît, donc il faut cultiver des terres de moins en moins rentables, et donc le taux de profit tend à se réduire, mais le progrès technique permet d'augmenter la production en fonction de cette augmentation de la population. Malthus, il est plus pessimiste, il pense qu'il faut réguler la croissance de la population, le fameux malthusianisme. Et Marx apporte quelque chose de nouveau, qui est la notion de rupture, la notion de crise, hein, et la notion d'une lutte perpétuelle des classes. Hein, donc, la fameuse lutte des classes entre la classe des prolétaires et la classe des capitalistes. Et pour les marxistes, justement, l'histoire... elle est jalonnée par cette lutte perpétuelle entre prolétaires et détenteurs du capital. Donc depuis la plus haute antiquité. Hein. Donc, là, il donne des exemples pour dire que l'histoire elle est jalonnée par ce qu'il appelle ce matérialisme historique, hein, et qui a amené à la société capitaliste, et que la société capitaliste elle est vouée à son implosion justement par cette lutte des classes, hein, qui est liée au fait que le capitaliste exploite le travailleur pour obtenir un surplus. Hein. Donc là, je vais faire vite là-dessus. Hein. Donc là, c'est l'école classique. Hein. Donc on est toujours au 19e siècle. Cette école classique, avec les écoles précédentes, elle a quelque chose de commun. C'est la réflexion sur la valeur, hein, sur la valeur des marchandises. La valeur des marchandises, pour ces gens-là, elle est, en gros, hein, je vais faire vite, hein, vous m'excuserez, il va y avoir beaucoup de lacunes dans ce que je veux dire sur l'aspect de la pensée, mais globalement, ces gens-là, donc classiques, physiocrates, pensent que la valeur de la marchandise est dans le travail qui a été fourni, en gros, pour fabriquer cette marchandise. Donc c'est la valeur travail qui définit la valeur de l'échange de la marchandise. Hein, et cet échange-là, il est fait à travers... Donc les prix relatifs sont définis, les prix entre une marchandise et une autre sont définis par la valeur travail. Ce travail, bah, il est globalement stable, à travers le temps, sauf s'il y a un choc technologique ou de productivité. Mais le travail, la quantité de travail est stable. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que les valeurs relatives entre les biens sont stables dans le temps et que la monnaie n'est qu'une marchandise, n'est qu'un moyen d'échange. D'accord. On dit en économie, elle est neutre, elle n'a aucun impact. Le seul impact qu'elle a, c'est que quand on augmente la quantité de monnaie, comme la quantité de travail reste la même, on augmente la quantité de monnaie, on augmente le niveau général des prix. L'augmentation de la quantité de monnaie lui fait perdre sa valeur, donc il faut payer plus cher, d'accord, le même bien qui a la même quantité de travail. Donc la monnaie, elle est vue comme neutre, donc c'est un voile. Donc c'est une autre notion. Voilà, donc ça c'est un point commun quasiment à tous les économistes. Il y a quelques exceptions. Hein. Donc il y a des économistes qui avaient pressenti le fait que les prix relatifs entre les biens pouvaient changer. Hein. Donc il y avait un économiste, qui était Richard Cantillon, qui avait justement pensé le fait que dans un marché, tous les marchés n'étaient pas aussi concurrentiels les uns que les autres, et qu'il y avait des rentes de monopole ici et là. Et que quand on augmentait la quantité de monnaie, bah, il y en avait qui avaient plus de pricing power, donc qui pouvaient justement faire, et d'autres qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient en concurrence. Et donc qu'on pouvait déformation des prix. Donc que la monnaie, à ce moment-là, peut avoir un impact. Mais c'était le seul à le dire, quasiment. Mais globalement, disons, la théorie standard, c'est la monnaie n'a pas d'impact. De la même manière, donc, les néoclassiques, donc là je parlais des classiques, on parle des néoclassiques ensuite, hein, donc les grands penseurs néoclassiques, donc c'est Jevons, Menger et Walras, et Léon Walras, d'accord? Donc ces gens-là, de manière, sans se connaître, ils réfléchissent à la même chose, c'est-à-dire qu'ils incluent dans la théorie de la valeur, la notion de l'utilité. Pour eux, la valeur, elle n'est pas définie par le travail contenu dans une marchandise, mais par l'utilité qu'elle apporte. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils donnent, Ricardo, Walras donne l'exemple de la perle en disant, bien sûr, la perle, ben, il faut aller la chercher au fond de la mer, donc il y a une quantité de travail qui est fournie. La perle, on va le payer, mais c'est pas à ce prix-là qu'on vend la perle. La perle, parce que c'est la perle elle-même, c'est la perle pour la perle. C'est pas le nacre, parce que le nacre, on peut l'obtenir par ailleurs, mais c'est la perle elle-même qui intéresse, parce que c'est un bijou. C'est un bijou naturel. Donc c'est un prix qui va au-delà de cette valeur de travail. Hein. Donc c'est l'utilité qu'elle apporte, le plaisir qu'elle apporte. Donc on est un peu une sorte d'hédonisme. De la pensée de la valeur, en fait, c'est l'utilité qu'elle apporte, et on parle de l'utilité marginale. Donc, on parle des marginalismes. En tout cas, je fais vite là-dessus, donc on parle de l'utilitarisme. Donc, le prix n'est plus un rapport entre quantité de travail fourni, mais c'est un rapport entre utilité qu'un bien peut apporter. Et alors ça c'est très important, peut-être que ça a été un peu long, mais ça c'est très important à garder en tête, parce que c'est cette notion-là de l'utilité relative, d'accord, et de l'équilibre que ces utilités-là provoquent, hein, donc là les néoclassiques, donc après, disons, les penseurs classiques qui étaient les penseurs de la limite de la croissance, commencent à penser en termes d'équilibre, c'est-à-dire, qu'est-ce qui équilibre tous les marchés? Donc ça, c'est toute la pensée de Walras, de Léon Walras, est là-dessus, c'est l'école de Lausanne, hein, pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est la pensée de dire comment est-ce qu'on arrive à cet équilibre, donc cette valeur de l'utilité. On ne l'obtient pas, on ne la connaît pas tout à fait, mais on l'obtient par tâtonnement. D'accord, c'est le tâtonnement par un crieur de marché, donc c'est dans des marchés centralisés. Hein, et donc on commence à parler de concurrence pure et parfaite avec un crieur de marché, un marché centralisé, comme sur les marchés financiers. D'accord ? Donc cette vision standard néoclassique de la théorie des prix est celle qui prévaut aujourd'hui sur les marchés financiers. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Parce que c'est important pour la suite, pour la compréhension, pour ma deuxième partie, si j'ai encore 10 minutes, hein, si j'ai encore... voilà, vous me dites... Hein, pour ma deuxième partie, c'est important parce que dans ma deuxième partie, j'avais envie de vous parler de la notion de monnaie. Hein, et qu'est-ce que c'est que ce truc, que la monnaie, hein. Et donc je voulais commencer par juste une précision. Donc là, quand on commence à apprendre la monnaie en microéconomie, donc mes premiers professeurs de microéconomie à la fac, donc, qui nous parlaient des échanges, et il nous parlait de la fable du troc. Hein? Donc c'est vrai que quand on parle à un enfant de la monnaie, ou quand on parle à n'importe qui connaît pas la monnaie, on dit dans les sociétés primitives, on vivait avec du troc, avec le développement des sociétés, des biens et services et autre chose, il a fallu une sorte d'unité de compte commune pour pouvoir échanger. Enfin, les anthropologues aujourd'hui, ils sont d'accord, quasiment tous d'accord, pour dire que le troc en tant que tel n'a jamais existé. Hein, c'est le troc, il n'y a plus de monnaie. En fait, le troc a été, souvent et même en Union soviétique, a été vu comme, une alternative à une crise monétaire. D'accord ? Mais il ne préexiste pas à la monnaie. Donc, ça, c'est important à garder en tête. Hein. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, mais c'est un sujet assez long. Mais la monnaie... préexiste, enfin la monnaie
est née avec les échanges. Et puis même dans les, la monnaie, elle naît, on voit les premières monnaies poinçonnées hein, dans les empires mésopotamiens, il y a 5000 ans, hein, dans les premiers empires mésopotamiens, sumériens si vous voulez. Hein. Et les contemporaines, hein, avec la profondeur, encore une fois, du temps qu'il faut accorder à contemporains à ces périodes-là, hein, et les contemporaines à l'invention de l'écriture. D'accord, donc l'écriture et la monnaie sont nées presque en même temps. Hein, et l'écriture naît avec le besoin, des besoins religieux, des besoins avec la loi hein, et autres. Hein, et la monnaie naît quasiment en même temps parce qu'il fallait compter hein, pour les impôts. Pour... Et la monnaie poinçonnée, encore une fois, hein, préexiste à la monnaie poinçonnée, la monnaie métallique. Hein, donc la monnaie a une histoire très longue, mais alors très très longue, qui se termine quasiment il y a 40 ans, avec c'est une histoire très longue d'abstraction. Hein, c'est-à-dire que la monnaie, au début, c'est un métal. Hein, donc les échanges, pour faire des échanges, on pèse des métaux. Donc, c'est un, donc à chaque fois qu'il y a un échange, il faut peser les métaux. Et on arrive, donc, comme je disais, les empires mésopotamiens ou autres, hein, où on poinçonne pour la première fois avec la monnaie, avec la tête du souverain. Et à ce moment-là, c'est le souverain qui dit la monnaie vaut tant. Donc à ce moment-là, il est interdit de peser. Hein. Ça, c'est très important d'avoir en tête. Donc avant, on pèse. Quand le souverain poinçonne, on ne pèse plus la monnaie. Mais elle contient quand même du métal. Ouais, donc les souverains ont souvent... ils ont rogné souvent les monnaies, ils ont souvent fait ce qu'on appelle du débasement, rehaussement, enfin il y a eu plusieurs noms pour expliquer les dévaluations monétaires via le rognement du métal. Mais en tout cas, très tôt, la monnaie est liée au souverain, hein, au signe souverain. Hein. Donc là, quasiment depuis le début. Donc ça c'est un point très important. Hein, et donc toute l'histoire de la monnaie, c'est une histoire de, voilà, de conflit, de détachement progressif de la monnaie, le billet, la monnaie billet, avec l'art et autres. Et en fait, on arrive à la fin de cette histoire, à la fin de la relation de la monnaie avec la matière, avec la sortie des accords de Bretton Woods en 1971. Hein. Donc c'est très récent quand même. Hein. Et donc qui est après... les accords de Jamaïque en 76 et autres, et la sortie des taux de change fixes. Bon, mais là je vais faire vite là-dessus, mais en tout cas la monnaie devient monnaie papier pure et devient monnaie, elle devient monnaie, ce qu'on appelle la monnaie, 50 dernières années, purement, hein, monnaie écriture. Hein. Et cette écriture, comme je le disais dans le résumé de cette conférence, cette écriture, elle est créée par les banques. Hein, c'est les banques qui créent la monnaie. Donc avec l'aide qui est là pour assurer que les paiements vont se faire. Et une garantie du souverain, au final, qui détient la monnaie ultime, qui est la dette publique. Hein. Donc il y a une relation, la monnaie, elle définit une relation un peu horizontale entre les gens pour les échanges. Elle définit une relation verticale avec les institutions souveraines. Et c'est ce contrat un peu social de la monnaie, entre guillemets, qui est un peu qui est une source de cohésion sociale. Donc on a bien vu que les crises monétaires ont été souvent source de guerre civile, ont été souvent source de conflits sociaux majeurs. Moi j'ai grandi en Argentine, donc je suis parti à l'âge de 17 ans. J'ai vécu donc dans les années 80 trois crises monétaires, d'accord, et qui se soldaient par des queues devant les banques, de la violence dans la rue. Une autre que j'ai pas vécue mais qui était encore plus violente, c'était la crise de 2001, quand on a limité la sortie des dépôts et qu'on a converti les dépôts des gens en dollars en pesos. Donc on a dévalué la monnaie des épargnants en Argentine. Hein, d'accord, donc ça provoque, donc c'est une source de cohésion sociale majeure, la monnaie. Donc pour la nature de la monnaie, c'est ce que je voulais dire sur la nature de la monnaie. Je voulais dire autre chose sur la création monétaire. Hein? Donc quand j'ai parlé des banques, les banques créent la monnaie. C'est-à-dire que la banque, par la nature de son activité, lorsque de l'argent, elle crédite dans l'emprunteur par un simple jeu d'écriture. D'accord ? Donc une banque, elle a 100 de capital et 100 de liquidité. Elle va prêter 100 de liquidité. Elle a toujours 100 de capital. Mais elle va créditer le compte d'un emprunteur. Donc, ça va revenir en dépôt. Imaginons que c'est une société, une économie avec une seule banque. Va revenir en dépôt et la banque va se retrouver avec un bilan, au lieu d'un bilan de 100, un bilan de 200. Revenir à 100 une fois que cette dette sera remboursée. Donc, l'I crée la monnaie, le crédit font les dépôts. Le remboursement du crédit se traduit par une contraction monétaire. D'accord ? Donc ça, c'est une notion importante à avoir en tête. On pourra après, si on va en parler un peu demain. Bien garder en tête que le crédit fait les dépôts. C'est pas qu'il faut des dépôts pour faire des crédits. Hein. Donc, le crédit crée les dépôts, d'accord ? Donc c'est très important. Et donc dans le monde financiarisé, d'aujourd'hui, il y a eu cette première rupture entre la monnaie et le métal. Et dans le monde, il y a une deuxième rupture, je dirais, entre le prix, entre la formation des prix, que ce soit la formation des prix des biens ou la formation des prix des actifs. La formation des prix des biens ou des actifs ne répondent pas au même mécanisme. Je dirais, là, je me base beaucoup sur l'école française de la régulation, Michel Aglietta. Donc, j'ai eu comme professeur fondateur un peu de ce courant-là, du courant régulationniste français, avec Robert Boyer et André Orléans et autres. Avoir un impact sur les prix, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la monnaie, maintenant, elle est détachée du métal, elle peut être créée. Hein? Elle peut être créée. Pas ad infinitum, mais quasiment. Donc, dans la limite des réserves obligatoires que les banques doivent déposer à la banque centrale. Mais peu importe, mais en tout cas, la monnaie, les banques, elles ont ce pouvoir de création monétaire ex nihilo. Et donc, elles ont le pouvoir d'influer sur les prix des biens et des... Si je donne l'exemple des prix d'actifs, hein, donc si j'anticipe que les actions vont monter, donc je m'endette pour acheter des actions. Comme elles montent, ça valide mon investissement. Hein, et donc, quand je reviens à la banque, celui qui va me financer pour redemander un crédit parce que mon investissement a été heureux, l'heure va valider un peu cet investissement-là. Et donc, sinon, on est dans un cercle. Plutôt un momentum, il y a une logique de momentum, disent les régulationnistes, dans les prix d'actifs. Hein. C'est-à-dire que je m'endette pour acheter un actif, donc je pense que le prix va augmenter, et comme je pense que le prix va continuer d'augmenter, je m'en réendette pour racheter ce prix d'actifs, pour me retrouver avec plus d'argent à la fin. D'accord ? Donc ça, c'est les prix d'actifs. Par contre, sur les prix des biens, c'est pas la même chose. Les prix des biens répondent à des contraintes même de saturation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le prix d'un bien augmente, mais je n'achète pas un bien parce que son prix augmente, j'achète un bien parce que soit j'en ai besoin, soit par l'utilité, mais j'investis pas dans un bien, parce qu'un bien aussi il s'amortit, un bien dans le temps il se déprécie. Hein? Donc j'investis pas dans une marchandise, hein? Je parle pas de l'immobilier qui peut être assimilé à un actif financier. Hein? Donc, on a deux manières de trouver un équilibre des prix. Donc, c'est un sur le marché des prix des biens et, des biens et services. Donc, il y a une offre et une demande. Sur les marchés sur les marchés financiers, donc, il y a une offre et une demande qui définissent un prix d'équilibre. D'accord ? Et très rapidement, et sur les marchés des prix d'actifs, c'est une demande qui est nourrie par de la dette. Cet équilibre-là, en fait, l'équilibre, à tout instant, on est en équilibre.
à tout instant on a un équilibre, et ce niveau il est cassé lorsque le momentum est cassé, lorsqu'à un moment la banque, le prêteur ou les marchés vont dire ce prix ne va pas aller au-delà, ou que le rendement de mon actif ne va pas me permettre de rembourser ma dette, et à ce moment-là je suis insolvable. Et à ce moment-là se crée ce qu'on appelle la dynamique de la déflation par la dette. Et c'est là que je viens, les penseurs de la crise, hein, c'est le quatrième jalon, donc je parlais un, deux, trois jalons, les limites de la croissance, c'est les penseurs de la crise. Donc c'est les premiers à dire que la monnaie n'est pas neutre, quasiment. C'est-à-dire c'est Keynes, c'est Hayek. Et ensuite les régulationnistes aussi. Donc, la monnaie, elle n'est pas neutre. On la détient non pas juste par simple échange. Donc Keynes, il dit, on la détient parce qu'on est on peut avoir une préférence pour la liquidité. On la détient par motif de spéculation, non pas simplement pour échanger des biens. Et notre économiste Fisher, Irving Fisher, très important parce que c'est le premier à théoriser cette notion de crise. C'est-à-dire que Fisher, il croyait, comme les anciens, que la monnaie, et à l'équation quantitative de la monnaie, c'est-à-dire qu'il croyait que quand on augmentait la masse monétaire, les prix augmentaient. D'accord. Et quand on l'a réduisé, les prix baissaient. D'accord. Mais il a mis ça, pour la première fois, en relation avec l'aspect dette. Sur la dette, parce que quand les prix baissent, justement, les entreprises, elles font moins de marge, elles sont moins inclines, enfin, elles sont moins capables de payer la dette. Et donc, il faut qu'elles se dépassent de leurs actifs pour payer la dette. Et donc, cette vente progressive et récurrente des actifs, et justement, tout le monde se met à vendre, et donc, les prix baissent. Et donc, on ne peut plus rembourser la dette, et donc, on est en crise. Donc, c'est un peu cette logique-là, qui est importante à garder en tête, hein, sur l'aspect, sur la formation des prix entre actifs financiers et actifs. Actifs financiers et biens et services. Et là, si je vais me concentrer sur l'aspect actif financier, parce que c'est un peu le sujet qui importe, puisque tout le monde parle aujourd'hui, il y a des politiques monétaires très expansionnistes, les prix des actifs font monter aux cieux, les prix de l'immobilier à Paris ont atteint 11 000 euros le mètre carré, etc. Donc, c'est vrai dans toutes les grandes villes. Hein. Donc qu'est-ce que ça pose comme parce que ça pose aussi des questions sociales, sociétales, etc. Hein. Les bulles d'actifs, les problématiques patrimoniales et autres. Sur le partage du patrimoine, le partage des richesses. Ce que garder en tête, c'est que la théorie standard, comme je disais, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit donc la théorie néoclassique, c'est-à-dire que c'est une logique d'équilibre. C'est qu'à tout moment, les agents sont rationnels. Hein, donc c'est la logique de l'homo economicus, hein, les agents sont rationnels, donc c'est l'homme qui est détaché de la société, il connaît à tout moment son utilité marginale, et donc il connaît tous les états de la nature, hein, de l'utilité. Hein, donc et c'est un peu la même logique qu'il y a sur les marchés. Sur les marchés, le prix de marché, c'est la moyenne pondérée des états futurs de la nature que je pense qu'il peut avoir lieu. Donc c'est une probabilité, hein, donc on a une moyenne pondérée, c'est une espérance mathématique des états futurs de la nature. D'accord. Dans ce contexte-là, l'incertitude n'existe pas, puisque tout est probabilisable. Hein, donc là, vous pouvez lire Frank Knight, qui en 1921 a écrit un ouvrage sur les risques et les incertitudes. Les risques étant probabilisables et l'incertitude non. Et donc, ce qui est très dangereux sur les marchés, c'est qu'à tout moment, on pense que le marché il est efficient puisqu'il révèle les prix, il est centralisé, hein, il est atomisé. Hein, c'est-à-dire que c'est plein de petits acteurs, c'est très granulaire et donc il est efficient par ce fait-là. Mais cette pensée de la théorie standard qui pense que les prix sont tout le temps à l'équilibre puisqu'on connaît tous les états de la nature dans le futur, fait fi d'une certaine manière, hein, de la problématique de la dette, de l'endettement qu'a mis en avant, par exemple, la problématique de la dette qu'a mis en avant Fisher, la problématique de la préférence pour la liquidité qu'a mis en avant Keynes et qu'ont développé aussi les régulationnistes. Hein. Donc c'est un côté ambivalent de la monnaie à ce moment-là, c'est-à-dire que la monnaie est un lien social, elle assure la cohésion sociale, mais en même temps la monnaie est une source de pouvoir illimité, puisque quand en cas de crise, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la monnaie ultime, on va chercher la liquidité, on va chercher à se l'approprier.
Hein, donc, elle n'est plus un élément d'échange, c'est un élément d'appropriation. Donc, c'est ça l'idée de l'ambivalence de la monnaie. Hein, donc, il y a un ouvrage fameux d'Aglietta sur la violence de la monnaie, apparu dans les années 80, qui a été pas mal tendu dans un ouvrage qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle « La monnaie entre dette et souveraineté », que je vous conseille. Donc, au moins, les 70 premières pages sont très compréhensibles et tout le monde peut... Donc, c'est très intéressant. Mais en tout cas, il y a cet aspect, l'ambivalence de la monnaie, et cet aspect, à quel point les prix des actifs, ou à quel moment, ou quels sont les prix d'équilibre sur les marchés financiers. D'accord ? Donc, et la monnaie, dans ce cadre-là, joue un rôle très important. Encore une fois, elle ne semble pas neutre. Hein? Donc, et aujourd'hui, les banques centrales, elles sont quelque part dans une sorte de piège, hein, dans la mesure où, bien sûr, et je vais terminer par là, hein, pour laisser un peu de temps en question, je vais terminer par là. Bien sûr, les banques centrales ont réussi, entre guillemets, ont vaincu la lutte contre l'inflation. Alors, est-ce que c'est les banques centrales qui ont vaincu la lutte contre l'inflation? Peut-être vrai, hein, c'est les politiques monétaires reaganiennes, donc à l'époque, donc au début des années 80, qui ont, donc avec, on a cassé l'inflation de manière violente, hein, avec des hausses de taux d'intérêt terribles, hein, suite aux différents chocs pétroliers des années 70, on était dans un monde inflationniste, on a cassé l'inflation. Hein? À ce moment-là, on casse l'inflation, bien sûr, sans que c'est des politiques orthodoxes, hein, monétaires, orthodoxes. En même temps, il y a autre chose qui entre en jeu, c'est aussi l'entrée dans les échanges internationaux, dans la mondialisation, dans les échanges de biens et services, de milliards de personnes, donc de la Chine et de l'Inde, d'accord? De la Chine notamment, hein. Donc ça, ça a un effet désinflationniste ou même déflationniste, hein, qui a joué à la baisse des prix des biens manufacturés, notamment au cours des 30. Cette victoire, en gros, sur l'inflation des biens, mais par contre, qui a poussé les banques centrales à avoir des taux bas, hein, puisque justement c'est la crédibilité des banques centrales, il n'y a plus d'inflation, donc on peut maintenir des taux bas, mais les taux bas et la capacité d'endettement qu'ils génèrent, ils ont généré des bulles d'actifs, d'accord, enfin, ou des hausses des prix des actifs. Et donc, et c'est là où on voit la récurrence de plus en plus grande de crises, donc depuis, notamment, la crise de 87, la crise de 94, la crise 2001, la grande crise de 2008, la crise souveraine en zone euro. Hein? Donc, donc, on voit bien que les banques centrales qui mènent aujourd'hui, qui pour justement... éviter des crises systémiques majeures, ont dû injecter massivement de la monnaie. Et autre chose, ils ont dû sortir du marché la dette publique. Hein? La Fed, qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'il y a eu la grande crise, donc c'est par le quantitative easing, par la politique quantitative, les banques centrales achètent la dette publique. Hein? Elles la sortent du marché, ça veut dire. D'accord? Et donc, à ce moment-là, la monnaie, elle devient monnaie, la monnaie souveraine devient la monnaie ultime. Puisque le développement des marchés financiers et le fait que les États ne se finançaient plus via les financements banques centrales ou autres, dans des économies ouvertes, a fait que la dette publique a été soumise à la contrainte des marchés. D'accord ? Et donc, en cas de crise, qu'est-ce qui s'est passé ? Aussi bien aux États-Unis que plus tard, peut-être un peu trop tard, mais plus tard dans la zone euro, la banque centrale a sorti la dette du marché. Et donc, pour la rendre, encore une fois, comme lui donner, encore une fois, une caractéristique de monnaie ultime, hein, de monnaie, et pour éviter une crise majeure. Hein. Donc, aujourd'hui, les banques centrales, elles sont dans ce piège-là où, eh bien, elles ont injecté énormément de monnaie, elles ont sorti une partie de la dette publique du marché. Mais qu'est-ce que ça génère ? Ça génère des hausses des prix d'actifs partout. Et donc, on se dit, oui, mais les banques centrales, elles doivent retirer cette liquidité-là pour mettre fin aux effets. Mais retirer cette liquidité-là, à chaque fois que les banques centrales ont voulu le faire, depuis 2013, ça a causé des chocs sur les marchés majeurs. Hein, donc, si aujourd'hui, on dit que la politique monétaire est de moins en moins efficace, donc il y a beaucoup de liquidités, mais la croissance ralentit, oui, l'efficacité de la politique monétaire baisse. Mais de l'autre côté, l'impact d'un faible resserrement des conditions monétaires sur les marchés aujourd'hui, on est dans ce piège-là. Et on est dans ce débat. justement sur la nature de la monnaie et la nature des banques centrales. Hein. Et donc pour prolonger, pour terminer, en fait, le débat maintenant en finale, c'est justement, c'est une fois que les banques centrales, qui s'étaient totalement détachées du souverain hein, par le passé, elles rachètent de la dette souveraine, elles ont baissé les taux d'intérêt, est-ce qu'on ne revient pas à l'ordre ancien qui était avant la libéralisation des marchés donc dans les années 40, 50, 60, qui est celui où la banque centrale elle est soumise, hein, elle est subordonnée au souverain. Et donc c'est là où il y a tout le débat sur est-ce que le souverain maintenant doit être celui qui est le demandeur, l'investisseur en dernier ressort pour faire repartir la croissance dans le monde. On parle de l'investissement en énergie verte et autres. Donc ce sont des investissements colossaux qu'il faut et que le marché ne peut pas pour le moment fournir. Hein, et donc l'idée c'est de dire est-ce que les banques centrales doivent directement financer les États pour faire repartir la croissance tout en maintenant la stabilité monétaire.
Merci beaucoup Ariel. Donc il nous reste quelques petites minutes. Alors si vous avez envie de continuer à dialoguer avec Ariel, peut-être un petit comité autour d'un déjeuner. On va essayer de caler un déjeuner avec toi, Ariel, au mois de décembre, sinon on le fera en janvier. Donc si vous voulez, donc, qu'on vous invite pour discuter autour d'un petit déjeuner, autour d'un déjeuner en tête-à-tête presque avec Ariel, inscrivez-vous et donnez-nous vos feuilles, comme ça vous pourrez continuer à lui poser des questions. Parce qu'au départ, j'ai bien compris quand c'était facile, hein, quand on travaillait de la terre, on arrête la monnaie, de l'or, et là tu nous dis que la monnaie peut être créée, c'est un simple jeu d'écriture, que les banques peuvent fabriquer ex nihilo de l'argent. Je trouve ça vertigineux et super compliqué. Un grand merci mais d'avoir accepté donc de venir là, puis d'avoir accepté de venir encore deux fois pour répondre à nos questions. Alors, dans les quelques minutes qui suivent, est-ce qu'il y a un courageux qui... voilà, monsieur. Non, je crois que c'est mieux si vous...
Vous avez parlé de la dette publique comme monnaie définitive. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
La nature de la monnaie, comme je disais, elle est à l'origine. Elle a un lien consubstantiel avec le souverain, avec l'État. C'est l'État qui l'a défini, c'est un signe du souverain. Comme je disais, hein, donc, au moment où on a poinçonné les monnaies, c'est l'État qui décide, ça c'est la valeur de la monnaie, et on ne peut plus la peser. Donc ça c'est la première chose. Dans la société, dans le monde financiarisé, dans le monde de la finance, dans le monde de l'État, on a on doit dire, donc ces dépôts, ils sont assurés, donc une assurance fournie par l'État et en partie par les banques, donc une assurance de dépôt. Confiance aux banques, on laisse nos dépôts dans les banques. Il y a la banque centrale qui est le prêteur en dernier ressort en cas de crise, donc qui permet donc, justement de maintenir cette confiance. Plus confiance dans le système bancaire, qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter l'actif, l'actif le plus sûr qu'on pense, qui est c'est la dette publique. Hein? Puisque la dette publique, au fond, c'est la dette de la société vis-à-vis d'elle-même. En fait, c'est-à-dire que par les impôts que je paye, il y a une dette sociale qui se crée, hein, donc les impôts que je paye, les cotisations AFIP fait qu'il y a des déficits qui se créent, donc tout ça il faut le financer, donc c'est l'État qui va financer ça, hein, elle-même qui est incarnée par la dette publique. Donc la dette publique est un peu l'actif ultime, puisque l'État est celui qui, au final, donc j'ai dit les banques créent la monnaie, mais au final c'est l'État lui-même qui est celui qui décide quand il est au-dessus de la banque centrale, qui est au-dessus des banques. Ouais. Et l'État peut dire au moment. Donc les banques, autant les banques créent de la monnaie, mais cette monnaie peut s'effondrer
manière assez rapide si on est dans une dynamique de déflation par la dette, hein, donc où tout le monde doit rembourser des dettes, où les banques peuvent. En principe, le dernier à tomber en faillite, normalement, l'État il ne peut pas tomber en faillite, puisque au final, il sera financé par sa propre banque centrale, il sera financé par lui-même. Donc on parle de la dette ultime, hein, qui est celle de l'État, et la dette encore plus ultime, normalement dans les grandes crises monétaires ou financières, c'est quand on voit le cours de l'or, ben, c'est l'or.
Question ?
C'est un sujet. Oui, alors ça c'est tout le débat maintenant, c'est justement, on parlait de la monnaie, c'est le souverain, donc c'est le signe du souverain, donc c'est l'émergence de l'État en puissance. Bien sûr, l'internationalisation des marchés et le fait que les États sont dépendants des marchés fait que cette dette ultime, cette monnaie ultime peut être menacée, comme on l'a vu dans la crise grecque, comme on l'a vu dans la crise argentine. Et donc il peut y avoir une remise en question de la souveraineté de la dette. Des mouvements parallèles hein, ou alternatifs qui se créent, hein, ça a été vrai au cours de l'histoire, hein, c'est la création des monnaies parallèles. Hein, les monnaies parallèles ont existé par le passé. Je ne dis pas que j'assimile pas le Bitcoin à une monnaie parallèle, c'est une sorte de monnaie parallèle. Hein, donc elle est créée donc de gens qui se disent bon ça va être notre moyen d'échange. De la même manière, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin c'est un moyen de paiement hein, qui a été créé d'une certaine manière. Hein, donc c'est les crypto-monnaies. Donc il n'y a pas que le Bitcoin, il y a beaucoup d'autres. Hein. Mais la particularité des crypto-monnaies, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais la particularité, elle ne peut pas être créée ex nihilo. Hein. On ne se les prête pas. Hein. C'est-à-dire qu'on l'achète, on la vend, mais on ne fait pas des crédits en Bitcoin. Donc on ne peut pas passer des écritures en Bitcoin. Si, peut-être que à l'origine, peut-être que les gens peuvent mettre du Bitcoin en collatéral pour s'endetter. Donc c'est un moyen un peu de création monétaire. Mais le Bitcoin, c'est une monnaie, donc il faut miner. Donc il y a une notion de mining, c'est-à-dire qu'il y a pas automatique et des calculs surpuissants, on va chercher le Bitcoin. Il y a un nombre fini de Bitcoin, hein, donc je crois qu'il y a 50 ou 55 millions de Bitcoin à trouver. Donc c'est un peu comme le stock d'or dans le monde, hein. En fait il est plus ou moins fini, théoriquement. Mais donc c'est une sorte de monnaie déflationniste. Alors, La problématique des monnaies, crypto-monnaies, aujourd'hui, il n'y a pas de... et deuxièmement, la valeur des crypto-monnaies n'est pas stable. Donc l'un des facteurs pour qu'une monnaie puisse servir et puis serve à la cohésion sociale, on a longtemps aussi lutté contre l'inflation et autres, c'est que la monnaie doit être stable. Or, il y a 5 ans, il coûte 4500 dollars, peut-être aujourd'hui, il avait touché 8000, enfin bon. Donc voilà, ça roule un peu dans tous les sens. Donc c'est pas une monnaie, c'est un actif financier. Hein? On peut l'appeler monnaie, mais c'est pas une monnaie. Elle n'est pas émise, elle doit être minée, et sa valeur n'est pas stable, donc elle sert peu à des transactions, et elle n'est pas garantie. Cas de bug informatique.
Question ? Hein ? Dernière question ? Deux fois, monsieur ? Monsieur, vous avez une question là au fond ?
Non.
Merci, je suis le recteur de Paris. J'ai pas pu être là au début. J'étais avec des